Eh bien, nous allons commencer cette table ronde sur un sujet un petit peu sulfureux qui est période 39-45, les auteurs d'anticipation français entre résistance et collaboration. Et vous allez voir qu'effectivement, on retrouve tout le spectre au sein des auteurs français. Ils ne sont ni meilleurs ni pires que le reste de la population. Et pour ce faire, alors, nous avons Xavier Mauméjean, qui est un auteur que vous connaissez pour ses derniers livres en particulier, American, son dernier livre, mais il y en a un qui sort, hein, Xavier Mauméjean, qui s'appelle.
Qui s'appelle Kafka à Paris et qui raconte les vacances que le jeune Kafka a passées dans notre capitale au début du XXe siècle.
Voilà. Avec la touche de Xavier Mauméjean, on sera sûrement un peu surpris. À côté de moi, Jean-Pierre Andrevon, auteur de science-fiction bien connu, et qui a deux casquettes, parce que je crois discerner
Quatre ou
l'ombre,
cinq.
mais je crois discerner l'ombre d'Alphonse Brugnet aussi quelque part, et qui tout à fait récemment a sorti une somme absolument fondamentale que vous voyez ici. 100 ans de cinéma fantastique. Si vous voulez connaître tout sur le cinéma fantastique, il faut lire cet ouvrage. J'avoue que j'ai été très impressionné quand je ne l'ai pas lu, mais feuilleté, parce que pour le lire, il faut avoir beaucoup de temps. À l'autre bout de la table, nous avons Laurent Genefort, lui aussi auteur de science-fiction, qui tout récemment a republié les deux volumes de Homal, sont un grand cycle. Et son dernier roman qui vient de sortir, qui s'appelle L'Humaine. Et nous avons de la chance parce que Laurent Genefort a retrouvé un tout petit peu de sa voix.
Normalement, oui,
Voilà.
ça marche.
À côté de lui, Olivier Messac, qui est le fondateur de l'association des amis de Régis Messac. Et Régis Messac, on va en parler. Régis Messac a été le pionnier de la science-fiction qu'on n'appelait pas encore comme ça bien avant la guerre, et a été un grand auteur, a publié de nombreuses études, a écrit des romans, et a été aussi un grand résistant.
Et
On
mort en
va et
déportation.
qui est mort en déportation, mais on va en parler après. Et à côté de moi, Natacha Vazder, qui fait partie de ces trop rares universitaires qui se passionnent pour notre littérature favorite et qui a écrit entre autres une étude absolument passionnante qui s'intitule Ces Français qui ont écrit demain et qui a écrit aussi Les dieux cachés de la science-fiction française et francophone. Donc je suis entouré là d'experts qui connaissent très bien toute cette période de l'histoire de la science-fiction française. Et alors peut-être pour commencer, parce que tout le monde ici n'est pas forcément familier avec le paysage de l'édition en 1939, alors Natacha, vous pouvez peut-être nous faire un petit panorama sur la manière dont on pouvait lire la science-fiction et grâce à qui on pouvait lire de la science-fiction en 1939.
Alors, moi, je voulais simplement vous parler de deux éditeurs donc, qui sont Talandier et Ferenczi. Donc Ferenczi, qui est la grande collection donc, de l'imaginaire qui a été fondée en 1879 par Joseph Ferenczi, qui est un juif hongrois, et qui va donc connaître une véritable confiscation en 1939, évidemment, de sa maison d'édition. Alors, deux choses. La première, c'est que les éditions Talandier ne vont pas être confisquées par les Allemands, mais en ce qui concerne donc, les littératures de l'imaginaire, c'est les deux grandes maisons d'édition donc, de l'époque. Talandier donc va avoir une production erratique avec notamment beaucoup de collections qui s'arrêtent en 1938. La grande collection de l'imaginaire qui était Grandes aventures et voyages excentriques va paraître de façon erratique entre 37 et 42 et certaines collections donc reprendront en 1949. Alors l'autre grande maison d'édition Ferenczi qui publiait évidemment tous les auteurs donc d'avant, enfin une grande partie des auteurs donc d'avant-guerre, elle va connaître évidemment un sort tout particulier, ce qui me permettra d'embrayer un petit peu après sur comment finalement, très rapidement, comment les Allemands ont mis la main finalement sur l'appareil éditorial français. Donc Ferenczi, qui avait été fondé en 1979, 1879, excusez-moi. La maison d'édition donc est spoliée par les Allemands. Alors le terme précis, elle est arianisée. Donc en janvier 1941, et donc évidemment les fondateurs et les enfants donc de Joseph Ferenczi. Donc, on quittait depuis longtemps, donc, bien sûr, Paris. Et donc, cette maison d'édition, on va la confier à Jean de La Hire. Et Jean de La Hire, c'était un grand auteur donc, de l'entre-deux-guerres, grand auteur donc, de science-fiction et de ses voyages excentriques, parce qu'on appelait évidemment pas encore ça la science-fiction. Mais Jean de La Hire va démissionner donc, en décembre 1941. Et là, les Allemands donc, reprennent complètement donc, la maison d'édition et la baptise, ça deviendra donc les éditions du livre moderne. Donc tous les auteurs qui par la suite, pendant la guerre, seront publiés par les éditions du livre moderne, il faut savoir que c'est donc une maison d'édition qui est une maison d'édition totalement allemande, avec des capitaux allemands et gérée donc par les Allemands. Alors ce qui me permet de revenir là aussi très très rapidement sur justement l'appareil de répression qui va s'installer en 1940. Alors les maisons par exemple de Noël, on va sûrement reparler de Noël par la suite, puisqu'on parlera bien sûr de René Barjavel. Donc les maisons de Noël sont de Noël et Sorlot, oui c'est ça, sont mises sous scellé. Les messageries Hachette sont réquisitionnées et vous avez trois maisons d'édition donc qui sont ce qu'on appelle arianisées, c'est-à-dire complètement mises sous contrôle allemand. Vous avez donc la maison Kalman-Lévy, la maison Ferenczi dont je viens de vous parler et la maison Nathan. Et les Allemands, si vous voulez, ont véritablement à cœur d'investir complètement donc, le milieu éditorial français. Et donc, quand on parle de collaboration, si vous voulez, des auteurs, il faut quand même revenir à la source, c'est-à-dire savoir comment, justement, ce milieu éditorial eh bien, avait évolué au moment de la collaboration. Voilà, il y a très peu de maisons d'édition, si vous voulez, qui résistent à la collaboration, notamment aussi... Alors, d'abord parce qu'il y a évidemment la censure avec la liste Bernard et la liste Otto. Et deuxièmement, parce que les Allemands, si vous voulez, mettent sous clé le papier. Et donc même des maisons d'édition clandestines, je pense notamment aux éditions de Minuit, eh bien, ont d'énormes difficultés à publier des livres, même clandestinement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de papier. Vous voyez, donc évidemment, tout ce contexte-là historique va totalement conditionner la production littéraire de cette époque.
Merci Natacha. Alors il faut peut-être préciser aussi qu'à travers les maisons dont vient de vous parler Natacha Vazder, il y a de la science-fiction, mais effectivement c'est dispersé, c'est complètement perdu. Ce sont soit des fascicules, soit des sortes de pré-livres de poche. Les Talendis en particulier sont des formats poche. Et que ça, Olivier Messac va peut-être pouvoir nous en dire un mot, c'est que la guerre va entraîner aussi la disparition de ce qui aurait pu être la grande chance pour la France de connaître dès avant la guerre une collection et un magazine de science-fiction avec Régis Messac, qui, comme je le disais, a été un pionnier en la matière en France.
Un pionnier parce qu'il n'était pas seulement auteur de science-fiction, ou s'il est devenu auteur de science-fiction, c'est un peu par hasard, puisque comme je l'ai expliqué ce matin dans une autre conférence, il n'est venu à l'écriture de science-fiction que parce qu'il n'a pas réussi à traduire des auteurs américains, ou tous les cas parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les droits qui lui étaient demandés par les ayants droit, et donc c'est comme ça qu'il est rentré lui-même en écriture sur des thèmes qui lui étaient particulièrement chers. Il était également éditeur non seulement de la collection des Hypermondes, qui est la première collection de science-fiction à proprement parler, qui n'a connu malheureusement que trois titres, mais nous avons, il nous est parvenu quand même aujourd'hui, un catalogue qui était prometteur, en tous les cas, à travers les titres que son directeur de collection espérait pouvoir publier. Et puis, il y a eu également... dans le domaine de l'édition, de nombreux textes qui sont parus, notamment dans la revue des primaires, jusqu'en 1940, et qui sont, pour le dernier, restés inachevés. Alors, la collection des primaires, elle trouve ses débuts 1938, son deuxième titre, J'ai un trou de mémoire. Enfin, avec le troisième volume de la collection, les moyens financiers sont de plus en plus difficiles. À noter également que Régis est un auteur qui ne vit pas de sa plume. Et lorsque il touche des droits sur des textes qui sont publiés ici ou là, ces droits sont réinvestis immédiatement pour publier la revue Les Primaires, par exemple. Donc c'est très important à noter parce que ça veut dire qu'il fait partie de cette catégorie d'auteurs qui n'aura pas besoin, durant l'occupation, de recourir à l'écriture pour pouvoir survivre. C'est un élément extrêmement important. Voilà ce qu'on peut dire en préalable.
Je crois aussi que Régis Messac avait préparé un numéro zéro de ce qui aurait été la première véritable revue de science-fiction en France. C'était en septembre 1939, me semble-t-il.
Alors là...
Non, c'est... Où j'ai rêvé quand j'ai lu ça.
Non, il y a eu un numéro zéro, mais ce n'était pas dans le domaine de la science-fiction. C'était un hebdomadaire qui devait paraître sous le titre L'Incorruptible. Alors, c'est peut-être de ça, mais il y a une confusion là-dessus.
J'ai dû prendre mes désirs pour des réalités. Ça, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc vous oubliez. Alors effectivement, Régis Messac là, vient de faire une distinction, Olivier Messac vient de faire une distinction très importante. C'est que les auteurs maintenant que nous allons aborder sont tous, à une exception près dont nous parlera Jean-Pierre Andrevon qui est René Barjavel, ils sont tous à une exception près des auteurs qui sont déjà connus dans leur milieu avant la guerre. Ce sont des auteurs souvent très populaires, des gens comme Jean de Lahire, il a eu un très gros succès, mais il y a eu aussi Jean Dagrève, il y avait Max-André Dazergue, Léon Groc, ce sont des gens qui avaient un gros succès déjà avant la guerre. Et donc maintenant, on va étudier un petit peu les réactions de chacun de ces gens, de ces personnes, par rapport à une situation qui est tout à fait nouvelle. Alors on peut peut-être commencer par les plus déplaisants. On terminera sur une note plus agréable avec ceux qui ont été les meilleurs. Mais disons, on commence par distribuer les mauvais points. Alors il y a ceux qui ont été absolument enthousiasmés par la divine surprise. Alors je ne sais pas, par exemple, ceux très engagés, on peut déjà prendre le cas de Jean de Lahire.
Oui.
Natacha, peut-être.
Oui, mais peut-être, je ne sais pas.
Ou Xavier Mauméjean, vous voulez parler de Jean de Lahire, peut-être ou...
Moi, j'aimerais surtout parler de celui qui m'intéresse le plus, qui est Roger Blondel, parce qu'il est beaucoup plus intéressant que Jean de Lahire, parce que, me semble-t-il, toute la problématique... de cette table ronde, c'est entre le compromis et la compromission, vivre pendant la guerre et s'engager dans des valeurs portées par l'occupant qu'on reconnaît comme siennes. C'est toutes les différences. Et, par exemple, c'est marrant parce qu'en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses intéressantes qui est que, contrairement à la littérature générale, mais je peux me tromper, il n'y a pas de littérature de science-fiction clandestine pendant cette époque. Il y a de la résistance, bien sûr, évidemment, mais il n'y a pas de littérature clandestine qui va être un trait de la littérature générale. Il n'y a pas, par exemple, de maison d'édition clandestine pour des raisons en plus matérielles que tu as très bien rappelé, mais il n'y a pas ce trait de caractère. Et d'autre part, à part l'insigne exception de Régis Messac, j'ai pas trouvé d'authentique résistant dans la science-fiction proprement dite, mais dans l'imaginaire, oui. Et je pense, par exemple, après je répondrai, mais après j'ai fait un petit tour, je pense surtout à Jacques Yonnet, dont un des plus beaux livres d'imaginaire français, Rue des Maléfices, a été écrit parce qu'il était résistant. Parce qu'il marche dans Paris, parce qu'il doit aller d'un endroit à l'autre pour échapper à la Gestapo et qu'il va donc découvrir tout l'imaginaire parisien. Et donc, je n'ai pas trouvé de maison clandestine de la science-fiction française, je n'ai pas trouvé de résistants, à part ceux qui ont été évoqués, bien sûr, authentiquement français. Par contre, il y a toute cette zone qui va du noir au gris entre la compromission, Jean de Lahire, et le compromis, avec là aussi des degrés moindres, comme par exemple, Blondel, qui me semble être un cas à part, un cas intéressant, Bruce, très étonnant.
Béar Bruce.
Oui, voilà, moi, je parle surtout de Blondel parce que je trouve que sa littérature générale qui aborde des thématiques de science-fiction parle plus que ses romans de science-fiction qui me semblent relever de l'évasion nécessaire, comme Maurice Lima, par exemple. Donc il y aurait, et après je me tais, il y aurait... l'absence de résistance en général, me semble-t-il, l'évasion vers l'ailleurs, Maurice Lima, qui me semble être caractéristique du genre, et la compromission, comme Jean de La Hire, et l'exception Blondel-Bruce. Voilà.
On reviendra sur Béar Bruce un peu plus tard, parce que là aussi, nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Pierre Andrevon, qui a connu Béar Bruce. Donc il pourra, comme pour Barjavel, nous en parler. C'est l'homme qui a vu la bête. Donc c'est très bien.
Je voulais juste dire, oui, par rapport au comité. Oui, juste un mot historiquement parlant, par rapport, donc, en fait, ces écrivains qui ont collaboré, donc on va en citer... on va en citer deux, qui sont Jean de La Hire, par exemple, et Jean d'Agrève. Et puis on pourrait parler de Noël aussi, qui est un éditeur et qui va finir assassiné en 1945. Donc ces gens-là ont été, dès 1944, donc stigmatisés par donc le CNE, le Comité National donc, des Écrivains. Et ce Comité National des Écrivains, qui a été donc, fondé en partie par les trois gens, alors au début de ma carrière universitaire, j'ai parlé de Mauriac, et en fait François Mauriac faisait justement partie du comité. Donc c'était Jean Paulhan, Jean Guénaud, Blanza et François Mauriac qui ont donc créé, si vous voulez, ce comité en 1944 et établi donc une liste des écrivains véritablement collaborateurs. Et donc il y a eu deux listes, et dans cette première liste, donc il y a une première liste qui a été publiée en 1944, dans cette première liste il y avait Jean de La Hire, il y avait René Barjavel, il y avait Jean d'Agrève, qui étaient les trois noms que j'ai relevé dans la liste, historiquement parlant, bien sûr, par rapport aux littératures de l'imaginaire. Puis il y a eu une seconde liste, parce que François Mauriac est quand même intervenu pour dire que, bon, il y avait des gens qui avaient franchement collaboré, qui étaient franchement pro-nazis, qui étaient antisémites. Il ne faut pas oublier, par exemple, que De Noël a publié, donc Lucien Rebatté, a publié évidemment Céline, et surtout les pamphlets, alors Le Voyage au bout de la nuit, mais surtout les pamphlets antisémites donc de Céline. Et puis, eh ben, il y a eu le cas Barjavel, sur lequel on va revenir.
Chose, parce que De Noël, là aussi, De Noël, Pierre Assouline l'a très très bien montré et a rectifié un peu le tir dans sa biographie de Gallimard. De Noël a financièrement aidé Aragon et Triolet à vivre pendant la guerre. Donc c'est encore une fois un personnage complexe.
Tout est paradoxal, oui, absolument.
Oui. D'accord. Voilà. Alors bon, pour éliminer les franchement déplaisants, Laurent Genefort, peut-être un mot donc sur Jean de La Hire et Jean d'Agrève? Non. Alors, bon.
Non, mais je ne connais pas assez ce sujet.
Bon. Alors, Natacha Vazder.
Oui. Voilà, donc, si vous voulez, Jean de La Hire, c'est quelqu'un qui était... Parce que le phénomène de la collaboration, c'est un phénomène complexe. Pendant plusieurs décennies, c'est un phénomène qu'on a considéré, en quelque sorte, comme monolithique. Et en réalité, c'est comme la résistance, d'ailleurs, c'est très loin, historiquement, d'être monolithique. Donc, si Jean de La Hire, par exemple, si j'oppose Jean de La Hire et puis le cas de René Barjavel, ce qui permettra peut-être après à Jean-Pierre Andrevon de revenir, si je prends Jean de La Hire, donc Jean de La Hire a collaboré avec les Allemands, a écrit, effectivement, c'était quelqu'un qui était fondamentalement antisémite et pro-nazi. Il a écrit donc quand même de nombreux articles, justement, dans les journaux de l'époque et aussi, par exemple, dans la revue Je suis partout, qui au départ était... on va dire collabo pétainiste, et après c'est complètement éloigné justement du maréchal Pétain pour aller vraiment dans le sens des nazis, parce que il faut bien dire là aussi que malgré tout, eh bien, le maréchal Pétain est quelqu'un qui a essayé quand même de ne pas trop aller dans le sens, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des partis pro-nazis en France, si vous voulez, qui sont allés encore plus loin, finalement, que Pétain. Et donc, Jean de La Hire, lui, était justement pour ces partis pro-nazis. Alors, le cas Barjavel, c'est c'est plus compliqué parce que Barjavel, c'est un jeune auteur, donc dans ces années-là. Et ces jeunes auteurs, donc il y a toute une génération d'auteurs qui voient donc les grands auteurs installés, j'ai cité François Mauriac par exemple tout à l'heure, eh bien se mettre en résistance et donc quitter en quelque sorte les maisons d'édition. Et ces jeunes auteurs qui démarrent, eh bien ils sont opportunistes et ils voient tout simplement eh bien l'occasion finalement de commencer une carrière. Alors quand Barjavel a travaillé donc pour De Noël, eh bien au départ, il faisait un métier technique. Il s'occupait de la réalisation des livres. Il n'écrivait pas du tout. Et puis, il lui a proposé le manuscrit donc, de Ravage. Et Ravage a été retoqué en quelque sorte par De Noël, qui lui a dit « Voilà, il faut que tu fasses ça, ça et ça. » Barjavel le raconte évidemment très bien. Et donc, De Noël publie ce fameux Ravage. Voilà. Alors après, on peut ergoter sur le sens, évidemment. On peut essayer de travailler sur les représentations, évidemment, pétainistes ou non, qu'il y a dans Ravage. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, il faut insister, si vous voulez, sur la notion donc, d'opportunisme. Hein. Voilà. Donc, Jean de La Hire, vraiment quelqu'un qui s'est engagé idéologiquement. Barjavel, c'est quand même plus compliqué.
Voilà. Donc... Effectivement, Jean de La Hire, il a quand même écrit, par exemple, un bouquin qui s'appelait « Mort aux Anglais, vive la France », 42, etc. Et il a défendu ouvertement, il avait écrit un bouquin « Hitler, que nous veulent-ils donc ?» Et la réponse de Jean de La Hire, c'était « Il ne nous veut que du bien bon. ». Et puisque manifestement, personne ne veut parler de Jean d'Agref, qui, moi, est un auteur qui est à côté de ça, j'aime beaucoup. Alors j'interviens quand même une seconde, simplement... pour dire que Jean d'Agref, qui était quand même un auteur très connu avant la guerre, hein, il a écrit en particulier L'envol de l'aigle, toute une histoire, une sorte d'uchronie bonapartiste où Napoléon réussit à échapper à ces salauds d'anglais, etc. Et il a écrit, donc c'était L'aviateur de Bonaparte, c'est absolument magnifique. Et sans doute l'un de ses romans les plus connus, c'est quand même sur la piste des dieux, qui est un roman qui aujourd'hui encore se lit avec beaucoup de plaisir. C'est quand même paru en 1943 aux éditions Colbert, qui étaient des éditions très ariennes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc allez, on passe, oui. on passe les gens les moins intéressants, disons, au moins du point de vue politique. Alors parlons de Barjavel, puisqu'on a commencé. Jean-Pierre Andrevon, vous qui l'avez
connu. Je suis un peu perplexe et un peu de la manière dont on peut prendre ces auteurs. Parce que moi, effectivement, quand j'ai lu les premiers Barjavel, chez De Noël, en présence du futur, en tout cas dans leur réédition, quand j'ai lu les premiers romans de Blondel qui signait B.R. Bruce, je ne savais pas du tout quel était leur passé. J'avais 20 ans. Je lisais ça comme des romans d'anticipation, des romans de science-fiction. Et c'est peut-être le moment quand même de revenir un petit peu à la littérature, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est des gens qui, pour moi, sont vraiment dans la continuité de Renier Aîné et de Maurice Renard, qui, eux, sont morts juste avant la guerre, hein, l'un en 37, l'un en 39, si je me souviens bien. Et dans leur thématique, c'est tout à fait dans cette continuité-là, même si Barjavel, effectivement, a écrit son premier roman en 1941. Et quant à B.A. Bruce, il avait une carrière déjà relativement féconde dans les années 20, sous pseudonyme. Il faisait des romans plus ou moins érotiques, quasiment porno, des romans historiques, un peu à la Paul Féval. Donc c'est des gens qui avaient une expérience littéraire, quoi. Ils ne tombaient pas du ciel, même s'ils n'avaient pas écrit, ils avaient lu, quoi. Alors, c'est vrai que quand on écrit, bon, on est forcément façonné par le milieu dans lequel on est, mais comment peut-on juger, nous, en 2015, ce qu'on pouvait faire dans les années 39, 40, jusqu'à 44, hein. Il y a un excellent film, là, on passe de la littérature au musical, mais qui s'appelle « Chantons sous l'occupation ». On sait qu'il y a eu toutes les possibilités possibles. Certains partaient, d'autres restaient, abandonnaient le métier, d'autres continuaient à chanter, justement, parce qu'il fallait bien chanter quand même, hein, sous l'occupation, il fallait bien rire un petit peu. Et je crois que tous ces écrivains-là, en tout cas parlons de ceux que je connais le mieux, puisqu'il se trouve que je les ai connus personnellement, Barjavel et Bonnefoy, Blondel, Bruce, Bonnefoy, enfin c'est le même personnage, son vrai nom c'est Bonnefoy. Et c'est vrai que moi je suis très perplexe et très gêné pour en parler, parce que les ayant connus, C'était vraiment des crèmes d'hommes, quoi, ce qu'on peut dire. Plein d'humanisme, plein de... Quant au retour à la Terre, bon, ben, Pétain a façonné un retour à la Terre à sa manière pour essayer de retrouver des racines qui étaient sans doute des fausses racines. Mais Barjavel a toujours été... Il a eu le sens de l'écologie dès ses débuts. Il l'a montré dans toute son œuvre ultérieure. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, moi, comme écrivain, m'a énormément inspiré. C'est mon grand inspirateur. Alors, bon, gardons-nous de juger, quoi. Mais, et quant à quant à Bruce Blondel, il se trouve qu'il s'est par voisinage géographique, c'était un copain de Laval, un grand copain de Laval, qu'il avait fait rentrer à la montagne, je crois bien, journal quotidien du Massif central. Et puis après, la guerre arrivant, et Bruce ayant, je ne sais pas, il a écrit jusqu'à la fin des années 30, sous pseudonyme, ces histoires comme ça. Laval lui a dit, mais écoute, je pense qu'il lui a dit, j'étais pas là hein, quand même, tu peux pas m'aider au gouvernement, puisque Laval était rentré au gouvernement, et là il a été nommé sous-secrétaire d'État à la communication, ce qui était quand même la censure, même s'il n'y avait pas vraiment une véritable censure, encore que, on peut le dire, hein, ça a évolué au cours des années. Et alors ça, c'est un mystère. Pourquoi Blondel, Bonnefoy, Bruce a accepté? Pourquoi il est resté? Mais vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la débâcle. Hein. Je crois qu'il a foutu le camp de Paris vraiment en juillet 44, juste avant l'entrée de Leclerc et des Américains. Puis après, il a eu la carrière, si on veut, cachée que l'on sait, que dans les années 50, où il a commencé à publier donc Au fleuve noir sous pseudonyme de B.R. Bruce. Puis il y a eu son procès, il a été frappé d'indignité, il avait été condamné à mort à la libération, puis après sa peine a été commuée en interdiction de, je ne sais plus,
dégradation
nationale, voilà exactement.
Et confiscation,
oui,
des biens.
Voilà, et il a continué à écrire avec l'œuvre qu'on sait, mais ses romans, ses bons romans, quoi, si on peut dire, les romans qu'il caractérise le mieux, ont été écrits avant la guerre quand même. Et La planète sauta, qu'il a peut-être remodifié pour sa première publication, je crois que c'était en 51, quelque chose comme ça.
Non, c'est 46.
C'est 46. Avait été écrit avant la guerre, de même que Le mouton enragé, son premier grand roman de littérature blanche, avait été en tout cas commencé avant la guerre et puis il l'a terminé après, quoi. Donc c'est vrai que... Mais qui n'est pas complexe, en fait? Alors on est plus ou moins complexe, c'est évident, mais le cas de Bruce Blondel Bonnefoy est particulièrement complexe et c'est encore un autre que j'ai pu connaître, vu mon grand âge, que j'ai pu fréquenter un peu. C'était vraiment quelqu'un de gentil. Mais j'ajoute, pour expliquer ce qu'il est, ce qu'il a été, c'est que Blondel a fait la guerre de 14-18 pendant 4 ans. Il a été décoré, il était dans les spahis, je crois, il a été dans les tranchées. Et moi, il m'a raconté des trucs. Ces gens-là qui ont fait la guerre et qui ont réchappé, ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils ne voulaient plus entendre parler de guerre. Alors pour eux, bon... La capitulation, le pétainisme, c'était ouf, on en est sorti, quoi, voilà. Il faut bien avoir ça. Peut-être que les jeunes ou les moins jeunes de l'époque ne comprennent pas ça, mais je pense qu'il faut vraiment le comprendre. Il y a eu toute une génération, Giono en faisait partie, qui disait plus jamais ça, quoi, voilà. Donc ça explique un peu ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, quoi, voilà.
Merci. Laurent Genefort, sur B.R. Bruce, Blondel Bonnefoy.
Ben, je crois que Jean-Pierre a dit à peu près l'essentiel. Hein. Il y avait probablement une part d'opportunisme, de revanche sociale dans le fait de devenir ministre, parce qu'il a été quand même donc ministre sous Vichy. Il a été condamné à mort pour ça, pas du tout pour des écrits. En revanche, c'est vrai que quand on... Il y a, dans toute sa littérature, dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai pas lu sur la centaine de romans que j'ai lus de lui, j'ai pas lu une ligne qui soit antisémite ou raciste. J'ai lu plutôt quelqu'un qui était plutôt internationaliste. Il n'y a pas du tout de nationalisme terrien comme dans toute une partie du fleuve noir a été dans les années 50. Donc il, au contraire, quoi, il faisait clairement partie de l'aile humaniste. Et ça m'a beaucoup étonné en fait. Quand moi je l'ai lu quand j'étais ado et le premier bouquin que j'ai lu, c'était L'apparition des surhommes. Pour moi, c'était un bouquin majeur, justement, dans son appréhension humaniste de l'humanité. Et j'avais lu un petit peu plus tard des écrits de Jimmy Gueux. Si on m'avait dit un jour que que le collabo, c'était Bonnefoy et Gueux, c'était le résistant, je ne l'aurais pas cru. Parce que... Donc voilà, c'est effectivement toute la complexité. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, il était clairement dans le mauvais camp, il ne faut pas oublier non plus. Quoi.
Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose parce que Jean-Pierre Andrevon, à juste titre, a évoqué la proximité de Bonnefoy avec Laval. Et ce n'est pas une proximité, il ne l'a pas seulement aidé. Enfin, Laval n'a pas seulement aidé Bonnefoy. Ils étaient vraiment très proches et il a pris vraiment la direction du journal et il a publié les éditoriaux. Et je crois que si l'on veut vraiment chercher à savoir qui était Bonnefoy avant la guerre, ce n'est pas dans ses œuvres littéraires, mais dans ses œuvres journalistiques. Il faudrait se repencher sur les éditoriaux de cette époque-là, parce que plus que pétainiste, il était, à mon sens, lavaliste. Et très proche de Laval, presque un alter ego, me semble-t-il. Et je pense que si on veut résoudre l'énigme et comprendre la complexité du sujet, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudra aller chercher.
Oui, Laval, c'était un homme de réseau. Donc, il se faisait des amis et il est venu... il est venu deux fois, en fait, aux affaires. La première fois où il est passé, où il a placé Bonnefoy au journal parlé, c'est-à-dire à la radio, et la deuxième fois comme ministre de l'information, de l'information entre guillemets, Et effectivement, Laval, il a placé ses pions. Et Bonnefoy, c'était un de ses pions. Et il fonctionnait comme ça. C'était un affairiste. C'était, en plus de ça, Laval, c'était un radical socialiste. C'était quelqu'un de plutôt à gauche, d'origine. En fait, d'origine. Il a droitisé après, mais à l'origine, comme Bonnefoy, c'était quelqu'un qui avait la guerre en horreur et qui voulait se positionner par rapport à une. Il voulait concurrencer La Montagne, qui était le grand journal du centre-gauche. Il voulait le concurrencer sur le centre, en fait.
Xavier Beauméjean.
Donc c'était son mentor. Voilà, c'était son mentor.
Ah oui, oui. J'ai une toute petite chose avant
le mentor de Bonnefoy.
Sur Bonnefoy, Blondel, etc. C'est quelque chose qu'a dit Jean-Pierre Andrevon tout à l'heure et qui est très bon quand il a évoqué Giono. Il y avait une littérature de la Terre bien avant le Maréchal. Et qui, par exemple, Colline de Giono, qui paraît en 1929, à l'époque, Giono est peu ou prou considéré comme un écrivain régionaliste, et va, a posteriori, être repris par la propagande officielle. Donc là aussi, c'est très compliqué de juger. Mais pour en revenir à Blondel, moi, je pense qu'effectivement, la Première Guerre mondiale est un élément déterminant, que Blondel est, Bonnefoy, peu importe, assurément un humaniste. Ce sont des traits qui ressortent complètement, mais qui est perdu, qui est parfois aussi empreint de cynisme et d'un cynisme tourné vers lui-même aussi. Et j'ai relevé une phrase qui, de manière intéressante, n'est pas dans sa littérature de science-fiction, qui est dans Le Mouton enragé, qui est une sorte de modèle du cynisme et de la révisée politique, et qui est celle-ci « Je voulais bien, par nécessité, être un salaud. » Par nécessité, mais pas inutilement, pas salement. Et ça me semble intéressant parce que justement, la phrase le dit bien, il n'est pas un salaud de conviction, mais il est porté par les événements, les aléas, abandonne plus ou moins aussi un certain volontarisme. Il est aussi pas mal ballotté et on le retrouve peut-être dans ses écrits journalistiques, mais on le retrouve aussi délivré du poids de l'histoire après la guerre dans certains livres où l'humanisme réapparaît. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs,
on peut dire beaucoup de choses.
Dans une partie de ses romans, le personnage est agi plutôt qu'il agit. Et dans Par le robot, par exemple, qui raconte l'émergence à la conscience d'un robot, c'est un peu une sorte d'homme bicentenaire de Asimov, mais 15 ans avant, parce qu'il l'a écrit 15 ans avant. Sauf que dans la version, dans Par le robot, le robot ne révèle jamais son identité, ne révèle jamais le fait qu'il est conscient. Et ça rappelle tout à fait Bonnefoy lui-même, qui a toujours caché, hein, il n'a jamais assumé le fait d'avoir, d'avoir été ministre. Et effectivement, personne, enfin, quasiment personne ne le savait.
Il a été secrétaire d'État, pas
secrétaire
ministre,
d'État. Là.
Et puis après, les Allemands ont nommé quelqu'un d'autre en 42 ou 43. Il était rétrogradé en sous-secrétaire d'État. Enfin bon, c'est un détail.
Par manque de zèle, puisqu'on lui reprochait son manque de zèle.
Voilà, exactement. Oui, je crois qu'il a, il était ballotté très certainement. Il était à son poste et par fidélité à Laval, il est resté jusqu'au moment où c'était plus possible. Quoi, je pense que c'est ça, effectivement. Et Barjavel, c'est très difficile aussi à savoir. On ne peut pas se remettre dans l'époque. Quoi. Il a quand même publié, effectivement, Le Voyageur imprudent dans Je suis partout, ce qui était quand même pas innocent, en feuilleton au départ. C'était le grand journal antisémite et collaborationniste. Il l'a fait, mais il n'a pas seulement publié ce roman. Il a aussi écrit des articles, des critiques de cinéma essentiellement, mais même, paraît-il, je ne les ai pas lus, hein, mais d'autres articles qui sont quand même, paraît-il, assez ambigus. Alors bon, après, évidemment, il a fait ça. Examen de conscience, ça certainement, comme tout un chacun. Et encore une fois, moi, j'aime pas juger, quoi. On est souvent le jouet des circonstances, on est ballotté, on va dans le sens du vent, le vent tourne, on tourne avec, quoi. Je veux dire, c'est ça. Mais pour revenir quelques petits détails comme ça, comme ça me revient, Jean de La Hire, il a quand même publié, je crois que c'est en 1906, La Rue Fulgurante, qui est quand même un roman assez extraordinaire, space opéra. Qu'on lit encore aujourd'hui avec un grand plaisir, quoi. Je veux dire, lui non plus venait pas de nulle part, il n'est pas tombé de nulle part, quoi. Mais il y a quand même un résistant qu'on a oublié, c'est quelqu'un que vraiment j'admire beaucoup, et même si on est un tout petit peu en dehors de la littérature littéraire, c'est Jacques Dumas qui signait Marie-Jacques, hein, comme scénariste, et qui a créé le journal Cocardie tout à fait à la fin de la guerre, hein, et puis qui est paru de manière officielle, je crois, au début 1946, et qui a fait cette extraordinaire bande dessinée qui s'appelle Guerre à la Terre, hein, bon, dont les dessins étaient de Licois, qui était un dessinateur très collaborationniste, qui a fait toute l'occupation et sous Pétain des bandes à la fois catholiques, à la fois antisémites, à la fois voilà quoi.
Et de science-fiction
aussi.
Mais il dessinait dans Le Téméraire.
Absolument.
Qui était la revue de propagande à destination des jeunes.
Et là, je crois que Jacques Dumas l'a su après. Alors il l'a viré pour prendre un autre dessinateur pour faire la suite de Guerre à la Terre. Enfin. C'est dire que la situation est d'une extrême complexité. Bon, on pourrait en dire beaucoup.
Natacha.
Oui, je voulais simplement vous dire que si vous vous intéressez au sujet, il y a sur le site du Barjaweb, qui est donc le site de l'association des amis de Barjavel. Bon, outre, évidemment, beaucoup de, je dirais, quasiment tous les écrits, par exemple, la reproduction de tous les écrits journalistiques de Barjavel. Mais surtout, vous avez, par exemple, l'article et l'interview de Barjavel dans « Je suis partout ». Hein, vous avez la possibilité donc de le lire. Il est en ligne, comme ça vous ferez votre idée. Et par exemple, dans « Je suis partout », enfin, dans cette interview, bon, il y a des choses qui sont effectivement un petit peu dérangeante. C'est une interview de Henri Poulain. À la première page de son roman, René Barjavel a décrit en exergue le mot malin de Céline, du Voyage au bout de la nuit. L'avenir, c'est pas une plaisanterie. Et quelques années après, par exemple, je crois que dans les premières éditions, donc après la guerre, Barjavel a supprimé évidemment ce petit mot donc de Céline, qui avait été placé évidemment en exergue parce que Céline était avait été condamnée donc pour collaboration. Je crois aussi que, si vous voulez, là, autre chose que dit Henri Poulain, par exemple, à propos de Barjavel, qui avait 30 ans à l'époque. 30 ans, simple, extrêmement sympathique, l'auteur de Ravage exerce le métier de chef de fabrication chez l'éditeur Robert de Noël. Toute la journée, il brasse le papier, le carton, les épreuves d'imprimerie. D'un manuscrit accepté, il fait un livre, de sorte que Barjavel est, si on peut dire, le père temporel d'un certain nombre d'ouvrages de poids, de Bagatelle pour un massacre ou des Combres donc de Lucien Rebatté, qui était bien sûr un écrivain donc collabo. Enfin, voilà. Donc, faites-vous votre idée, je pense, par rapport à ça. Et pour en revenir aux résistants, alors je voulais citer également quelqu'un qui a joué un rôle vraiment dans la résistance sous le pseudonyme du colonel Fabian, c'était Auguste Vistel. Donc Auguste Wistel, c'était quelqu'un qui a travaillé donc pour publier justement. Alors là, on était plutôt dans la bande dessinée, dans les comics donc de super-héros donc à la française. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours tout à fait remarquable, je dirais, de résistant, qui d'abord a été fait prisonnier, puis s'est libéré. Enfin, une vie tout à fait romanesque donc pendant cette période-là, bien que bien sûr elle soit tragique. Et puis on va revenir quand même un tout petit peu à Régis Messac, parce que, alors j'en ai parlé ce matin, évidemment, nous avons fait une conférence débat sur le sujet, mais Régis Messac, c'est, non seulement a été arrêté pour fait de résistance en 1943, il faisait partie d'un groupe de résistance qui était plutôt d'obédience communiste, qui s'appelait ironiquement le Front National, mais c'était pas le terme précis, enfin, j'ai plus le terme précis en tête, peut-être Olivier le donnera après, mais donc ce Front National, sur dénonciation, tout le groupe a été arrêté. Régis Messac a été donc condamné Nacht und Nebel, parti donc en 1900 d'abord à la prison donc de Coutances de Saint-Lô, puis ensuite parti au camp donc alsacien donc du Struthof, de Natzweiler Struthof, à 80 km donc d'Épinal. Et puis ensuite, il a été donc évacué sur le camp d'Aura. Je simplifie, Olivier, hein, parce que j'ai fait le parcours ce matin de façon plus précise. Et on présuppose qu'il est mort donc dans une marche de la mort en 1945, mais à quelques semaines de la libération des camps. Vous voyez, donc ça a été vraiment un parcours tragique. Et Régis Messac a été un poilu de la guerre de 14, et était aussi un pacifiste convaincu. Donc aussi un parallèle, si vous voulez, à faire avec les auteurs que nous avons évoqués.
Ce qui indique qu'il y a aussi des choix. Qu'il y a aussi des choix, c'est aussi des choix personnels.
Tout à fait.
Olivier Messac.
Je veux bien ajouter un mot. Je voudrais rappeler quand même qu'à peu près comme tous les auteurs de science-fiction, il n'y avait pas d'auteur à cette époque-là, d'auteur de science-fiction à proprement parler. Les auteurs avaient un spectre plus large et écrivaient aussi de la science-fiction. C'est le cas notamment de Régis, puisque lui-même n'a écrit que quelques romans de science-fiction une œuvre à la fois littéraire et journalistique beaucoup plus abondante. Donc ce n'était pas à proprement parler un auteur de science-fiction, même si il est reconnu comme tel pour ses romans et pour la création de la collection des hypermondes et puis ses relations avec Hugo Gernsback, par exemple. Mais dans le cadre de sa résistance, je pense qu'effectivement on peut dire qu'elle remonte à 1914, puisque c'est à partir de la guerre de 1914 qu'il est devenu un véritable pacifiste et même résistant dès la guerre de 1914, puisque sa résistance à cette époque-là a commencé par refuser non seulement le moindre grade, c'est-à-dire d'avoir à transmettre un ordre de l'autorité militaire, mais aussi de charger son fusil. C'est-à-dire que durant la guerre de 14, il n'a jamais glissé une balle dans son fusil, et donc ça, c'est aussi un acte de résistance qui n'est pas le même acte de résistance que celui qui l'adoptera pendant la guerre mondiale, mais c'en est déjà un. Ensuite, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est une résistance pacifique à laquelle il va s'adonner, puisque son rôle consistera, selon les sources, uniquement à planquer des réfractaires et, d'autre part, à rédiger des tracts destinés aux paysans normands pour les inciter à ne pas vendre ni à donner des denrées alimentaires aux occupants. Voilà. C'est de cette façon-là qu'il a résisté. Donc c'est une résistance très idéologique et très marquée qui est d'ordre tout à fait personnel et même presque unique dans son genre, même si, effectivement, à l'instigation de collègues, il a fini par intégrer fin 42, début 43, un véritable réseau, enfin, en tout cas reconnu comme tel, le Front National qu'on appelle aujourd'hui le Front National de Libération, de manière à pouvoir le distinguer d'autres mouvements qui portent le même sigle.
Ouais. Merci Olivier Bessac. Alors peut-être l'un d'entre vous pourrait dire un mot aussi de quelqu'un qui lui aussi a été un résistant pendant la guerre et qui était un personnage important de la science-fiction, surtout dans l'après-guerre, mais qui était un grand lecteur des pulps avant, c'est Jacques Bergier. Non, mais enfin, donc juste un mot alors sur Jacques Bergier qui a été avant la guerre était l'un des rares lecteurs avec Régis Messac en France des pulps de science-fiction, et Jacques Bergier qui était chimiste de formation et qui était juif s'est engagé dans la résistance dès les débuts. Il a monté un certain nombre d'opérations, etc. Et il a terminé la guerre à Mauthausen. Alors lui, il a eu plus de chance que Régis Messac, il a réussi à s'en sortir. Et la légende veut que c'est lui qui l'a dit. Et pour des fois, Jacques Bergier, il fallait prendre un petit peu ça avec un grain de sel, ce qu'il disait. Mais il a déclaré que la première chose qu'il a fait quand il est descendu du train, il était encore vêtu de son pyjama rayé, je crois qu'il disait qu'il pesait 40 kilos à l'époque, il s'est précipité à la librairie américaine de Paris, Brentano's, et sous les yeux effarés du personnel de Brentano's, il s'est jeté sur les revues de science-fiction américaines qui commençaient à recevoir pour découvrir tout ce qui avait été publié pendant les années de guerre. Et ensuite, Jacques Bergier est devenu un monsieur très influent dans le milieu de la science-fiction. C'est grâce à lui qu'on a traduit Lovecraft en France, que le rayon fantastique a été créé et d'autres collections. Donc voilà. Alors lui, c'est après la guerre, mais c'était un homme qui était déjà dans le milieu de la science-fiction dès avant la guerre. Bon, parenthèse fermée.
Parenthèse fermée, il a quand même écrit Le Matin des Magiciens avec Pauvel, ce qui n'était pas particulièrement quelqu'un de gauche, quoi. Alors bon.
Et il a édité. Il a été. C'est encore plus. C'est là où on voit la complexité des choses. C'est qu'il a édité il a réédité en 70 dans sa collection Rencontres l'apparition des surhommes de B.R. Bruce. Et il connaissait très probablement son passé. Et il l'évoque à mots couverts dans la préface de l'apparition. Il évoque de façon cryptique son passé politique, mais dont il ne dit rien, et il ne l'aurait pas mentionné s'il ne l'avait su, d'autant que la légende courait qu'il était plus ou moins dans les services de renseignement de la résistance, donc il y avait des grandes chances qu'il sache son passé, qui il était réellement, et ce qui ne l'a pas empêché de l'éditer.
Il se basait plus sur la qualité à ce moment-là des textes que sur l'aspect idéologique des auteurs.
Alors je voudrais ajouter quelque chose sur Bergier, parce que j'en ai été personnellement témoin, à propos du Matin des Magiciens. Je l'ai entendu, j'étais assez jeune, c'est vrai, mais je l'ai entendu exprimer directement le fait qu'il était le véritable auteur du Matin des Magiciens. Mais que ce livre, tel qu'il l'avait écrit, avait été écrit dans un français tellement incorrect qu'il avait été repris, traduit, si je puis dire, et probablement, selon ses dires, modifié par Louis Powells, qui s'en était véritablement attribué la paternité. Donc il y avait chez Bergier, à cette époque-là, une certaine amertume qu'il a exprimée, et dont je peux véritablement témoigner sans en dire davantage, parce que je n'ai pas plus d'éléments pour pouvoir confirmer ou infirmer ce propos, mais toujours est-il qu'il l'a véritablement tenu.
Oui, ils sont séparés à un moment, ils n'étaient plus en trop bons termes. Mais il y a une collaboration qui avait quand même duré entre Bergier et Powells, depuis les éditions des Deux Rives au début des années 50, dont Powells était directeur, et c'est là où Lovecraft a été publié pour la première fois, et ça c'est grâce à Bergier. Donc il y avait quand même une amitié, une collaboration entre Powells et Bergier qui a duré assez longtemps.
Simplement, ce que je voulais dire à propos du Matin des Magiciens, c'est que, à mon sens, il est difficile aujourd'hui de déterminer quelle est véritablement la part de Bergier et celle de Powells dans l'ouvrage, ça nécessiterait des recherches très approfondies.
Ça commençait à être fait à la BN. Bon, mais là, c'est un autre débat. Alors, Jean-Pierre Andrevon me rappelait à juste titre qu'il y a quand même un certain nombre d'autres auteurs dont nous devrions parler, parce qu'il est déjà 6h10 et qu'on a été très bavard, dont par exemple un grand auteur populaire qui a traversé toute la période depuis la fin des années 20 jusqu'au début des années 80, qui est Maurice Liman. Voilà, alors, Xavier Mauméjean, je vous vois parler de Liman.
Je vais passer la parole à Jean-Pierre, qu'on parlera bien mieux que moi. Mais justement, Maurice Liman, c'est encore une autre voie de la littérature de science-fiction pendant l'occupation, puisque Liman... en 2-3 ans, publie des romans qui sont destinés vers un ailleurs complètement inventé, complètement imaginaire, qui se passe dans l'Himalaya, qui se passe dans les jungles exotiques, etc. Et qui est peut-être aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'attentisme des auteurs de science-fiction qui est de parler de là-bas pour ne pas évoquer l'ici.
Jean-Pierre Andrevon sur Maurice Liman.
Non, j'ai rien à dire sur Maurice Liman, qui est un auteur que je déteste tout particulièrement. Il écrivait avec ses pieds, ben, il faut le dire ce qui est. C'est un feuilletoniste qui a brassé tous les gens, effectivement. Le fantastique, la science-fiction, l'aventure, l'érotisme aussi, bien entendu, les voyages, le western. Et il a écrit toute sa vie jusqu'à un âge avancé. Alors effectivement, en étant totalement ailleurs, quoi, sans du tout... Je ne suis pas un spécialiste de Maurice Liman, dont les bouquins me tombent des mains, comme vous l'avez compris, mais on chercherait vainement dans ses textes un reflet de l'époque à laquelle il les a écrits. Quoi. Voilà tout ce qu'on peut dire.
Oui, il se contentait d'être publié. Alors peut-être un mot aussi d'un autre auteur influent de l'époque, qui est Léon Groc,
oui,
qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être lu, puisque... certains de ces romans là ont été réédités au Mouton électrique récemment, et Léon Groc fait partie des gens qui étaient influents, des littérateurs influents.
Oui, mais Léon Groc n'était ni résistant, ni...
Non, il a fait partie de ce marais...
Ni collaborateur, voilà. Mais ce qu'on peut dire quand même sur Léon Groc, c'est que il a été le beau-père d'un lieutenant de Doriot, et il a été... véritablement quasiment fâché avec sa fille par rapport à ce mariage. Donc il y a même marqué quand même une hostilité par rapport à l'idéologie d'Yves Dautin, qui a été son gendre et qui était un des grands reporters du Petit Parisien avant-guerre, et qui est devenu sous l'occupation un véritable second de Jacques Doriot au PPF.
Parce que Léon Groc, j'ai quand même remarqué que sans doute ce qui est son roman le plus connu, qui est La planète de cristal, l'édition originale de La planète de cristal, ça date de 1944. Donc, aux éditions Janicot.
Peut-être, c'est pas en collaboration, c'est une œuvre personnelle ou c'est une œuvre de collaboration?
Non, c'est une œuvre de Groc tout seul, et c'est sans doute son roman le plus abouti. Le plus abouti et le plus connu, qui a été réédité chez Marabout après, etc.
Ouais. Moi, je voulais juste terminer par rapport à un auteur qui n'est absolument pas connu, d'ailleurs dont on ne sait pas grand-chose. C'est un auteur qui en fait a publié en 1942 un roman qui s'appelle L'âge alpha. Et L'âge alpha, c'est une critique du nazisme. C'est un très gros roman qui fait presque 700 pages. Et alors, qui a été publié à Rodez, vous voyez, en province. Et donc, peut-être qu'il a échappé à la censure allemande, mais ça, à mon avis, c'était une véritable prise de position par un auteur qui critiquait, je veux dire, en pleine occupation allemande, bien qu'il soit évidemment dans le sud, mais qui critiquait véritablement, alors l'idée, c'est une critique très fine du totalitarisme, de l'idéologie nazie qui est à peine masquée, si vous voulez, sous le voile de l'anticipation, de la science-fiction, et Donc je crois que c'est, il doit y avoir aussi, où il y a des groupes comme ça d'écrivains, ou peut-être, on n'a pas le temps évidemment de les évoquer ici, mais moins connus, qui ont vraiment, à mon avis, œuvré dans le sens de la collaboration, ou dans le sens de la résistance. Résistance littéraire s'entend là, puisque Jean-Pierre Andrevon disait qu'il faut revenir à la littérature. Donc là, pour le coup, je reviens à la littérature.
Merci. Bah, je crois qu'on va conclure sur ces mots de Natacha Vazder. Parce que finalement, le temps a tourné. Il y a beaucoup d'autres auteurs qu'on n'a pas pu évoquer, des gens comme Nizerol,
pour qui... André Dazergue aussi.
Voilà, des gens... Bon. Mais tant pis, le temps a tourné très très vite. Donc merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour vos interventions. Merci.